FM. Aujourd'hui, on va parler du projet 400 lieux sur la Terre et j'ai le plaisir d'accueillir François, Aubin, Jérémy, les aventuriers de cette incroyable aventure. Salut à vous trois.
Salut Kevin.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bah ça va nickel, hein, ça va nickel, comme un lundi.
Ouais, comme un lundi. Alors, Jérémy, tu étais déjà venu l'année dernière pour nous parler de ce fameux projet. Donc, c'était avant, bien sûr, que vous partiez. Et puis, du coup, vous êtes revenu en pleine forme, à ce que je vois. On va commencer l'interview par un petit tour de table. On va commencer par la gauche, si je veux bien. Donc, avec ton nom, ton prénom et ton rôle dans le projet.
Alors, moi, c'est Aubin Durif. Et j'étais secrétaire dans l'association officiellement. Et sinon, membre du projet, comme tous les autres.
Ok, ça marche.
Alors moi c'est François. Dans le projet, j'étais à la base trésorier et je me suis occupé en particulier de tout ce qui était partenariat. Et donc voilà, après membre à part entière du projet.
Et puis voilà, moi Jérémy, donc grenoblois de base, président de l'association 400 lieux sur la Terre. Et puis comme les autres, membre à part entière du projet. Et puis il y a le quatrième, Thibaut, qui n'est pas là, qui est en Australie pour ses études.
Alors, ce petit projet d'ailleurs, vous l'avez créé quand? Quand et comment l'idée vous est venue de créer ce projet?
Alors, ça a mis un petit bout de temps avant de se mettre en place. Donc, ça a commencé en mai 2017. Donc, c'est moi qui ai initié le projet, donc moi, François. C'est parti un peu de rien, en fait. On était tous passionnés de montagne et pour nous, le Népal, c'était un peu une évidence. Parce que c'est une terre qui est reconnue comme... qui est reconnu pour ses treks, pour ses montagnes. Et moi, j'ai toujours rêvé d'aller découvrir l'Himalaya. Et donc, c'était un peu l'occasion, en fait, de partir. Et du coup, j'ai proposé à mes trois acolytes. Ils ont tout de suite suivi. Donc, ça s'est fait un peu tout seul comme ça. Ouais.
Donc, le but principal, c'était d'aller au Népal ou pas forcément?
À la base, c'était de partir au Népal, ouais, faire le trek. Et après, on s'est dit, comme on va dans un pays pauvre, ce serait bête d'y aller juste pour faire du tourisme, entre guillemets. Et de pas faire et pas contribuer en fait dans le pays pour essayer d'améliorer certaines choses quoi, ou d'apporter notre patte en fait.
Oui.
Donc comme quand François dit trek, c'est qu'on est parti pour faire la traversée du Népal à pied, donc d'est en ouest. Ça représente à peu près 3 mois de marche. Et comme on voulait pas simplement, comme il l'a dit, venir au Népal pour marcher, on voulait avoir une action. Local, après on est intervenu dans une école à Katmandou les 3 mois qu'on suivit. Donc en tout on y est resté 6 mois.
Ok, ça s'est bien passé globalement?
Très bien.
Voilà, ouais. Super, deux expériences très différentes.
Ouais, tout le monde est content d'être parti, personne ne regrette d'être parti au Népal et d'avoir marché. D'ailleurs, vous avez marché combien de kilomètres?
1411 précisément.
Ouais, c'est ça.
Il y avait 67 000 mètres de dénivelé positif. Ah ouais, ça faisait des journées pas tant longues, ça faisait 30 km par jour à peu près. Mais pas mal de montées-descentes, à remonter une vallée, la descendre, etc.
Ah bah franchement, il faut les faire les 30 km par jour parce que franchement, il faut vraiment avoir des jambes en béton et être motivé dans la tête pour vraiment marcher 30 km par jour. Alors avant de partir au Népal, vous avez lancé une cagnotte en ligne, donc on avait d'ailleurs sollicité nos auditeurs à vous aider. Combien d'argent du coup vous avez récolté parce que vous avez pu partir, donc c'est que vous avez atteint votre objectif?
Donc oui, complètement, en fait on espérait récolter 4 000 euros. Et au final, on a récolté plus de 5 000, donc à peu près 120%, 130% de la cagnotte qui a été faite. Donc ouais, on était très heureux de ça. Et puis on a, en contrepartie, on leur a fait parvenir des cartes postales, des posters, des albums photos. Et puis voilà, comme ça, tout le monde est content.
Et vous êtes parti il y a combien de temps? Il y a le mois où vous êtes parti, c'est quand?
On est parti en septembre 2018.
Ok, et revenu en?
En mars 2019.
Donc ça fait une grosse traversée. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé durant votre marche. Est-ce qu'il y a eu des choses plutôt négatives, des choses positives? J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'entre vous, en tout cas, qui est tombé malade. J'ai suivi un petit peu l'aventure sur Instagram. Alors si je pourrais un petit peu savoir ce qui s'est passé.
Bah déjà pour la maladie, je pense qu'on a quasiment tous été malades, sauf François qui est apparemment hyper résistant. Mais oui, des fois on a été bloqué 2-3 jours. Avec des touristas, etc. Et après, moi, j'ai été malade pendant 4-5 jours plus longtemps. Donc, du coup, ça nous a retardé. Mais bon, au final, c'était un mauvais moment à passer. Puis, on n'a pas eu de gros soucis graves. Pas de chute, personne s'est fait une fracture ou quoi. Donc, va pas se plaindre. C'était le risque, hein. Ça fait partie, on s'y attendait un petit peu quand même.
Donc, malade de quoi
Bah, souvent, c'est soit des problèmes d'eau, comme l'eau là-bas, elle est pas forcément potable. L'eau du robinet, elle est pas potable. Il suffit qu'on lave mal les couverts. C'est vite arrivé, quoi.
Et du coup, oui.
Et en fait, on faisait très attention au début au niveau de la nourriture, au niveau de l'eau, puisqu'on est, on est quand même en Asie. Et forcément, quand on était à pied pendant 3 mois, on allait dans des endroits qui sont tout sauf touristiques au Népal, des endroits très très reculés. Et forcément, on est obligé de manger ce que les gens mangent, de boire ce que les gens boivent. Et au final, il s'est avéré que on tombait malade, mais pas tous en même temps, alors qu'on mangeait et on buvait un peu tous la même chose. Donc après, c'est pas forcément la nourriture, c'est peut-être l'hygiène. L'hygiène, parce qu'il y a eu quelques périodes où on n'a pas pris de douche pendant longtemps, notamment une période où on n'a pas pris de douche pendant 20 jours. Et il suffit de mettre la main par terre, de s'essuyer la bouche, et voilà, ça peut arriver comme ça.
C'est, en fait, vous avez fait un petit peu un Pékin Express, en gros.
Un Pékin Express sans voiture, ouais.
Ouais, sans voiture. Mais du coup, vous dormez où? Dans la nature, comme ça, ou vous allez chez les gens un petit peu, vous essayez de vous faire loger?
Bon, on avait prévu de prendre des tentes avec nous, donc on avait 2 tentes de place avec nous, mais on s'en est jamais servi. Tous les soirs, on arrivait à trouver un endroit où loger, soit chez l'habitant, soit dans des petits lodges, en fait, qui sont prévus pour les Népalais, parce qu'en gros, les Népalais, comme il n'y a pas beaucoup de routes encore au Népal, ils voyagent beaucoup à pied, et du coup, ils s'arrêtent le soir pour dormir. C'est des petits hôtels, en fait, qui sont... Enfin, c'est pas vraiment des hôtels, c'est des chambres prévues chez l'habitant pour les voyageurs qui passent.
Ah, super!
Et donc, nous, on en bénéficiait aussi pendant notre marche. Donc, c'était vraiment cool, ouais.
Ah, du coup, vous étiez vraiment en contact de la population, vraiment ça, chez ouais. les gens. Donc, on voit vraiment que c'est pas vraiment la même façon de vivre qu'en France.
Ouais, c'est ça. Vraiment, on est allé dans des zones où les gens vivent complètement isolés et reculés du reste du monde, où leur culture est restée ancestrale. Donc, c'est des gens qui vivent en autarcie avec la nature, qui vont aller récolter le riz. Pour la plupart, il y a énormément de rizières là-bas, qui ont chacun un potager, qui ont quelques poules, parfois des cochons, des yaks. Là-bas, la vache ne se mange pas, puisque la vache est sacrée dans leur religion. Et puis voilà, donc c'est des gens qui vivent complètement en harmonie avec la nature et de façon très simple.
Est-ce que vous avez trouvé ça plutôt long ou au contraire, c'est passé super vite, vous n'avez pas vu le temps passer?
Personnellement, je trouvais que c'est passé vraiment très vite, parce que dans la marche, on n'a pas trop de notion du temps. On est un peu déconnecté de quel jour on est, et etc. Et ça s'enchaîne rapidement. Il y a toujours des moments dans la journée où il y a un peu des longueurs, mais au final, ça passe vite et on est vite arrivé à la fin. Et après, à l'école, c'est passé aussi vraiment très vite. Il y en avait beaucoup de trucs à faire, tout le temps occupé. Et quand on avait un peu de temps libre, on essayait d'aller visiter... ou autre, et du coup, c'est passé vraiment 6 mois très rapidement, quoi.
Est-ce que vous avez un moment inoubliable que vous pouvez nous citer, peut-être chacun d'entre vous, si vous avez en tête quelque chose où vous vous êtes dit, ça, j'oublierai jamais de ma vie, ou alors au contraire, un moment négatif où vous vous êtes dit, j'oublierai jamais de ma vie non plus. Est-ce que vous avez quelque chose à raconter, un peu des anecdotes à nos auditeurs qui nous écoutent?
Bah, je vais raconter quelque chose d'un peu négatif, bah, pas négatif sur le moment, mais au final, après on est content d'en parler. Non, c'est on avait prévu un timing un peu sur cette traversée, notamment au niveau des visas, parce que les visas, on peut prendre 3 mois de visa, et donc il fallait s'organiser. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on tenait pas du tout notre fiche de route, que ça soit par rapport aux maladies, que ça soit par rapport à d'autres aléas, mais qui sont liés à l'aventure, puisque l'aventure, bah, c'est ça, c'est quand il arrive des choses qui sont pas prévues. Et ça a commencé en fait dès le début, puisqu'on est arrivé en avion à Katmandou. Et il a fallu rejoindre la frontière est du Népal, donc pour le début de notre marche. Et en fait, on devait mettre 1 jour et demi, sauf qu'on est tombé en plein mouvement de grève des conducteurs népalais. Et on a mis 4 jours. On s'est retrouvé bloqué dans des bleds, mais complètement perdu dans le sud du Népal, où il y avait personne qui a accepté de conduire. Il y a des gens qui nous ont proposé d'aller au début de notre marche en tuk-tuk. Donc un tuk-tuk, c'est un petit véhicule de 3 roues qui va aussi vite qu'une mobylette, sauf qu'on avait plusieurs jours de route à faire, et je pense qu'on y serait toujours si on avait accepté. Et au final, on a réussi à trouver une Jeep. On est passé dans des endroits assez chauds, on a été escorté par la police pendant cette grève, mais on a atteint le début de notre marche. Donc voilà, il y avait déjà un film à faire sur ces 3-4 jours.
Dès le début, c'est pas mal parti, mais en tout cas, c'est la joie de la grève.
c'est ça.
On arrive, on n'a même pas d'endroit pour se déplacer.
Et puis, comme on parle pas népali, on se rend pas trop compte de ce qui se passe. Au début, on avait pris un bus et on devait avoir 20 heures de bus. Et au bout de 10 heures, le bus, il nous demande de descendre à un endroit, on savait pas où on était au Népal. Il nous dit, bah voilà, c'est fini, sortez maintenant et débrouillez-vous. Et voilà.
Ah ouais, donc c'est vraiment une sacrée. En plus, pas d'internet. Avec le téléphone, peut-être une boussole. Comment vous avez fait pour vous retrouver votre route après?
Bah, on avait des cartes.
Ouais.
Et puis après, dans certains hôtels, on arrivait à trouver du Wi-Fi. Donc ça nous a aussi aidé à voir un peu où on était et ce qu'il nous restait à faire pour arriver jusqu'au départ. Ouais.
Heureusement.
Ouais.
Après.
Oui.
Et après, on essayait aussi de parler 2-3 mots de népalais pour demander notre chemin. Et c'était quand même le meilleur moyen pour pas se perdre, c'était d'essayer de demander le chemin au népalais.
Ouais,
parce que les cartes népalaises n'étaient pas forcément très précises. Du coup, dès qu'on trouvait des gens, on leur demandait avec un jargon approximatif de népalais, mais on arrivait à se faire comprendre à peu près.
Je vais écouter. Comment on dit que je veux ma route en...
Et bah, en fait, on savait dire que des mots, pas vraiment la tournure des phrases. Donc, par exemple, pour demander. Si on voulait demander où était Paris, par exemple, et bah, on connaissait le mot chemin en népalais, donc qui est bateau. Donc, on disait bateau Paris.
Okay.
Et les gens comprenaient et nous indiquaient le bon chemin. En gros, c'était ça. Après, on savait poser quelques questions. Par exemple, pour dire comment tu t'appelles, c'est Tapai Konam Keho. Des choses du genre.
Okay, bon.
Mais voilà, ça allait pas. On pouvait pas tenir des grosses discussions, quoi.
Heureusement qu'il y avait quand même une petite base, parce que sinon ça serait vraiment la pagaille. Hein.
Sinon ça aurait été compliqué. Ouais.
Et en termes de nourriture, puisque la nourriture, je pense qu'elle n'est pas pareille là-bas, est-ce que ça a été difficile? Des fois vous avez mangé des choses, pas forcément à votre goût, mais vous étiez obligé de manger parce qu'il faut manger quand même. Est-ce que vous n'avez pas un plat qui vous a marqué, un plat, la personne vous a servi ça, vous vous êtes dit, oula, qu'est-ce que c'est? Non?
Non, pas spécialement. Après le Népal, il mange un peu tout le temps la même chose en fait. Ils font beaucoup de riz parce que bah, voilà, ils le produisent sur place. Et le plat traditionnel népalais, c'est le dal bhat. Donc c'est un plat composé de riz, de lentilles et de légumes et parfois un peu de viande. Et c'est un repas en fait qu'ils mangent 2 à 3 fois par jour. Ils mangent tout le temps le dal bhat. Et donc nous, on s'est mis à manger aussi beaucoup de dal bhat.
Un minimum 1 fois à 2 fois par jour du riz. Mais bon, on adore le riz, donc ça va.
Après, ouais, il y avait un aliment, c'était plus un condiment, qui était un peu approximatif pour nous. C'était des sortes de radis, donc qui servaient avec le dal bhat et qui faisaient macérer, fermenter dans un bocal en plein soleil pendant plusieurs jours. Et ça, ouais, on n'a pas pu. Hein, ça, on a goûté un peu, mais c'était impossible pour nous, vraiment impossible.
Et la première chose que vous avez fait en rentrant en France, c'est quoi? C'est prendre une douche? Ou c'est, je sais pas...
Manger une raclette.
ça me manque. Hein.
Ouais, bah, y a pas de fromage et très peu de viande aussi. Parce que bah, la viande, les hindous, c'est 80% de la population, les hindous ne mangent pas de viande. Donc, et puis la viande, globalement, coûte cher. Donc voilà, peu de viande et pas de fromage. Donc quand on est rentré en France, la viande et le fromage, c'était appréciable.
Retrouver le petit gruyère là. Est-ce que pour vous, sinon le défi est relevé? Est-ce que vous êtes en rentrant, vous êtes dit bah c'est bon, la tâche qu'on avait à faire, enfin l'objectif en tout cas fixé est relevé?
Bon, à l'issue de la traversée, on était un peu tous déçus, je pense, parce qu'à la base le projet initial c'était de relier les deux frontières et avec tous les aléas qu'il y a eu, on n'a pas eu le temps nécessaire pour aller jusqu'à la frontière. Donc on était un peu déçus, mais en soi on était quand même contents de ce qu'on avait fait. Et après, au niveau de la partie solidaire qu'on a fait à l'école, voilà, tous les projets qu'on a mis en place, ça s'est très bien passé. Donc à ce niveau-là, ouais, le défi était complètement relevé. Ouais.
Bah super, du coup, c'est une rentrée en France plutôt positive.
Ouais, carrément. Ouais.
C'est ça, avec plein de choses à raconter. Oui, je rajoute par rapport à François, au début, l'idée c'était de marcher 3 mois et de relier vraiment frontière à frontière. Et au final, on a marché les 3 mois, mais il nous aurait fallu peut-être une semaine et demie, 2 semaines de plus pour vraiment boucler le truc. Mais d'un point de vue des visas, ça devenait compliqué. Il fallait qu'on rentre à la ville pour renouveler nos visas.
Donc là, vous êtes en direct sur News FM, donc à la radio, donc on entend un petit peu ce que vous dites, mais on a également, vous avez pris des photos durant votre trajet et vous organisez du coup une conférence qui se passe ce soir à Saint-Paul-de-Vars. Est-ce qu'on peut un peu en parler, comment on peut s'y rendre et qu'est-ce qu'il y aura là-bas?
Alors la conférence de ce soir, donc, c'est dans la nouvelle salle polyvalente de Saint-Paul-de-Var, donc ça sera même le premier événement organisé dans cette salle. Donc Saint-Paul-de-Var, c'est à peut-être à 20 minutes au sud de Grenoble, c'est vraiment pas loin en voiture. Et puis on a décidé, c'est à 20h30, donc on sera tous les trois pour en parler avec un diaporama derrière nous. Et l'idée, ce serait de montrer des images un peu inédites. Donc des images, des vidéos, des témoignages aussi, il va y avoir pas mal d'anecdotes. Et puis on va s'attarder un peu plus aussi sur la partie solidaire de notre projet, puisque voilà, il y a des belles images dans la partie sportive, mais il y a aussi plein de choses à raconter sur la partie solidaire. Donc voilà, et donc l'idée aussi c'est d'échanger avec le public, de répondre à des questions que les gens se posent, et d'avoir des discussions.
Ok, donc ça se passera ce soir. Est-ce qu'on a un lien, un site internet pour avoir un peu plus d'informations?
Alors sur notre page Facebook, donc 400 lieux sur la Terre, il y a un événement avec toutes les informations liées à cette conférence qu'on a intitulée Simon Inter Népalaise. Et puis voilà.
L'entrée est gratuite ?
L'entrée est gratuite.
J'imagine, super. Mmh. Et puis sinon, si on peut pas se déplacer, est-ce qu'on a un compte Instagram où on pourrait voir d'autres photos ?
C'est ça, il y a le compte Instagram 400 lieux sur la Terre, donc on communique dessus pas mal par story, aussi par photo. Et en ce moment, il y a notre exposition photo aussi à Saint-Paul-de-Vars, donc dans le même village, qui est ouverte depuis samedi dernier et qui est ouverte encore un mois jusqu'au 6 octobre, donc aux horaires d'ouverture de la mairie, avec vraiment beaucoup d'images de la traversée. L'idée, c'est d'essayer de faire ressentir une journée de marche telles qu'elles ont été pendant notre traversée, avec des moments clés, du matériel clé, notamment vous pourrez peser notre sac à dos qui faisait 16 kilos. Donc voilà, plein de choses à voir.
Il faut le porter, ça.
Il faut le porter. Au début, on le sent. Après, on le sent de moins en moins, mais ça ralentit quand même.
Et sinon, à part ces deux événements, vous avez d'autres événements qui vont arriver prochainement, là, pas loin, en tout cas?
On va essayer de continuer de faire partager en fait notre expérience népalaise. Donc, on va avoir une exposition photo qui va être prévue juste après celle de Saint-Paul-de-Vars, donc pour le mois d'octobre.
Fin octobre, début novembre, dans l'école d'ingénieurs Felma à Grenoble. Donc je pense qu'il sera accessible, qu'il sera public.
Et ensuite, l'expo photo va se déplacer en Haute-Savoie, donc d'où je suis originaire. Et donc là, on va organiser aussi une expo photo d'une semaine à Thiers, donc pour ceux qui connaissent. Et on fera aussi une conférence là-bas en fin de semaine. Voilà, la fin de la semaine de l'expo photo.
Bon, super, bon, j'imagine que sur votre page Facebook et Instagram, vous allez mettre toutes les infos nécessaires.
C'est ça. Et puis, pareil aussi, sur notre site internet, on a un site internet. Bon, maintenant, on ne l'utilise plus trop. On l'a beaucoup utilisé pendant notre projet. Mais vous trouverez le moyen de s'inscrire à notre newsletter, par exemple. Et par notre newsletter, on vous tiendra informé des futurs événements. On a aussi le projet de réaliser un film qui devrait voir le jour fin 2019. Donc voilà, à suivre, avec peut-être des projections publiques, ça serait cool.
À suivre, du coup, il faut les suivre également sur Instagram, Facebook, même sur leur site internet, on va le rappeler, www.400lieuxsurlaterre.wordpress.com. Est-ce que vous avez déjà une autre destination de voyage en vue, ou alors on se calme tranquillement, on rentre en France, on fait les petits projets à droite à gauche?
Déjà, on va essayer de finir ce projet, l'amener jusqu'au bout, et finir nos études aussi, parce qu'on reprend les cours en septembre pour notre dernière année d'études, et après on a 2-3 idées en tête, mais on va mûrir tout ça.
Un petit indice, c'est qu'au Népal, il y a deux grands sentiers qui traversent le Népal. Donc nous, on a fait le sentier qui était à plus basse altitude, à une altitude moyenne de 2500. Il y a un autre sentier un peu plus au nord qui traverse le Népal à une altitude moyenne de 4500. Donc voilà.
Ok, c'est le petit indice. Petit indice, et puis de toute façon, voilà, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux pour être vraiment au courant de tout ce qui va se passer. On commence à toucher à la fin de l'interview. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Vous êtes en direct à la radio, profitez-en. Je vous laisse le micro tranquillement pour passer un mot.
On va peut-être en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous ont suivis pendant ce projet, parce qu'il y a eu des moments assez difficiles, que ce soit mentalement, physiquement, donc on a essayé de rester en contact un peu avec tous les gens qui nous suivent, et on a régulièrement des messages de gens qui nous félicitent pour ce qu'on a fait, qui nous félicitent aussi pour notre communication sur les réseaux, donc ça fait plaisir. On a aussi des écoles qui nous ont suivis et qui nous ont bien motivés pendant la marche, donc voilà, pareil pour les remercier, et puis nos partenaires. Et puis voilà.
Puis voilà, le message est passé. Est-ce que vous avez d'autres messages? Je sais pas, un petit coucou à faire passer, n'hésitez pas. Non, on s'arrête là. Eh ben en tout cas, merci à vous trois d'avoir été en direct sur les ondes de News FM, Aubin, François et Jérémy. Et n'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres projets ou pour nous donner encore un peu plus d'indices pour votre prochain voyage.
Bah, merci.
Ça marche,
beaucoup.
Merci. Ouais.
Au revoir, bonne journée.